Donc, la croix. Alors, je voulais citer deux passages de saint Thomas d'Aquin, parce que je trouve que moi j'avais été ébahi de lire ce qu'il avait un petit, il avait fait un petit peu une compilation à son époque, donc au XIIIe siècle, de ce qu'il avait trouvé de plus intéressant sur ce qui était dit dans le monde de la théologie et dans le monde de la philosophie, dans la somme théologique. Et sur la croix, voilà ce qu'il a dit. Il a dit déjà que la croix, ça fait forcément référence au serviteur souffrant d'Isaïe, et de manière plus particulière au dernier texte qui est avec les pécheurs, il a été recensé, quoi. Voilà, parce qu'il avait à sa droite et à sa gauche deux bonhommes qui n'étaient pas des tristes, qui avaient dû tuer des gens, qui avaient dû faire des trucs horribles. On a des noms en tête de grands criminels, bah, faut penser à ça et le plaquer un peu sur ces gens-là en se disant que c'était pas juste des fêtards, quoi. C'était des gens vraiment. Et il a été crucifié, il a été recensé avec les pécheurs. Voilà. Et donc Thomas d'Aquin dit, le Christ a été crucifié entre deux voleurs pour les raisons suivantes. Voilà des raisons, on appelle ça des raisons de convenance. C'est-à-dire que c'est pas une démonstration par A flèche B, mais c'est plus maintenant que ça s'est produit, et ben on peut voir des raisons qui sont bonnes pour lesquelles Dieu a fait ça. Finalement, avec notre raison humaine, on va essayer de rejoindre Dieu dans le plan d'amour qu'il a pu avoir. Voilà. C'est plus une manière contemplative de voir pourquoi il y a eu la croix dans ce cas-là. Alors, pourquoi le Christ a-t-il été crucifié entre deux voleurs? Parce que du côté des Juifs, pour que le Christ participât à la honte des deux larrons. Voilà, c'est-à-dire que du côté juif, c'est on va faire le transfert du bouc qu'on faisait courir et puis voilà, qui portait tous les péchés, ou du taureau qu'on allait immoler, ou de l'agneau, et puis il y a un transfert de tout ce mal, on va condenser ce mal qu'on cherche toujours à mettre sur les autres, parce que naturellement, on veut toujours mettre le mal à part. On va toujours chercher un coupable, on le voit dans notre société, hein, surtout finalement un des grands problèmes de l'athéisme, c'est qu'il ne trouve pas de résolution du mal autre que de trouver un coupable parmi d'autres personnes ou d'autres systèmes, et ça engendre une violence. Alors que nous, on dit, bah, on charge le Christ, on dit, bah, ton sacrifice n'a pas été inutile, donc c'est la croix, et donc tu t'es uni à la souffrance des deux larrons qui étaient à ta droite et à ta gauche. Voilà. Donc autre raison du côté du plan divin. Pour le salut de tous, y compris le salut des criminels, afin de montrer comment sera faite la séparation des hommes au jour du jugement, à gauche et à droite de lui. Voilà. C'est quand on contemple le larron, on peut imaginer à sa gauche et à sa droite, Jésus, il parle des boucs et des brebis. Voilà. Les boucs, c'est les vilains qui donnent des coups de corne, qui sont tout noirs et qui voilà. Et les brebis, c'est la blancheur de l'âme, c'est la douceur, c'est la docilité. Voilà. Donc ça, il reprend ça de Saint Léon. Autre raison, pour figurer ceux qui souffrent le martyre pour la gloire de Dieu, voilà, c'est le bon larron qui, en fait, qui est passé instantanément de grand criminel à premier martyr. C'est ça, enfin, premier martyr, non, parce qu'il y a eu d'autres martyrs, il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Zacharie, il y a eu les saints innocents, mais voilà, ça a été en tout cas un des premiers martyrs, et c'est quand même bluffant de se dire, ce gars-là, il a offert sa souffrance, et du jour au lendemain, boum, il est devenu martyr, quoi. Il a obtenu le ciel d'un coup. Il a volé toute sa vie et il a volé au moment de sa mort la place au ciel, même aux plus grands saints qu'il y avait à l'époque, quoi. Qu'il est rentré avant eux. Ce soir, tu seras aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Voilà. Et du côté du plan divin, donc la croix, pourquoi? Bah, c'est pour ceux qui souffrent le martyre pour leur propre gloire. Et ça, c'est le mauvais larron. Parce qu'en fait, quand on est damné, quand on se damne soi-même, quand on dit non, je vis pour moi-même et je ne peux qu'insulter les autres. On est en train de souffrir pour sa gloire et c'est une souffrance qui reste inutile, qui reste profondément. Il y a une imperfection absolue en quelque sorte parce que la désespérance prend le dessus et Judas bah, a désespéré au dernier moment de sa vie et la Bible raconte à plusieurs endroits que il s'est fichu en l'air, que voilà, il a été retranché des 12 disciples, que et voilà, et c'est vrai que c'est triste, mais le Christ a accepté qu'il y ait ce modèle hein, pour qu'on puisse méditer sur le mystère des réprouvés, parce que nous, notre prière, eh ben, elle peut empêcher des gens de désespérer à leur mort, et voilà, et pour certains, c'est tragique, mais c'est comme ça. Il y a des mystiques qui disent qu'on peut aussi diminuer les peines de certaines personnes en enfer qui, du coup, souffriront éternellement, mais moins. Voilà, moi je trouve ça un peu déprimant, je préfère prier pour que. pour qu'il y ait plus de gens au ciel, mais voilà, notre prière sert aussi à ça. C'est comme ça. J'ai compris une chose aussi, enfin je pense, c'est que ce qui fait que le Seigneur parfois met sa main en disant stop, je préfère que cette personne meure et il envoie un ange, c'est aussi que la souffrance que la personne aurait à souffrir en enfer serait trop insupportable et qu'il y a une miséricorde divine qui est je vais envoyer un ange pour le. En gros, cet homme qui de toute façon me nie, pour l'envoyer en enfer tout de suite plutôt que il subisse des peines finalement qui soient encore plus infernales. Parce que. Finalement, le paradis et l'enfer sont dans les deux mains du Seigneur. Et le Seigneur permet qu'en enfer, il y ait encore toutes ces âmes et tous ces damnés qui continuent à le maudire éternellement. Et ça, c'est un mystère de miséricorde, je pense. Voilà. On peut ajouter, nous, que finalement, le Seigneur, avec la croix, donne une utilité à ce qui est inutile. Voilà. La souffrance, ça sert à rien, de base. Et la croix, ça ne sert à rien non plus, sauf à faire souffrir les autres. Et bien, le Seigneur a donné une utilité à ça, finalement, alors qu'au départ, c'est le mystère du mal, n'a pas, on ne peut pas trouver un fondement au mystère du mal, parce que c'est le mal, et parce qu'on ne peut pas justifier le mal, c'est quelque chose d'horrible et de vraiment répugnant. Et on a un autre passage, toujours dans Thomas d'Aquin, alors j'ai pas cité, mais le premier, ce que je vous ai cité, c'était dans la troisième partie, la 3A, question 46 à 11. 3A, question 46 à 11, parce qu'il y a plusieurs parties à la somme, il y a quatre parties, et la 3A, c'est la troisième sur les quatre. Et à la question 46, article 4, pour le coup, en revenant un peu en arrière, Thomas d'Aquin, il dit que la croix montre qu'aucun genre de mort n'est à redouter devant la gloire qui nous attend. Aucun genre de mort n'est à redouter devant la gloire qui nous attend. Sous-entendu, dans la Bible, la croix, c'est le truc le plus horrible qui puisse arriver à quelqu'un. Donc finalement, puisque Jésus a choisi ça, dans la mission qui est la nôtre, la méditation de la croix va forcément nous convaincre, même si c'est très lentement et qu'on ne voit pas forcément les effets, va forcément nous convaincre du fait que dans la souffrance consentie pour le Seigneur, il y a une fécondité propre à la mission et qu'il y a quelque chose qu'on va réussir à supporter, à surmonter. Voilà. La croix, donc, il y a aussi un parallèle avec l'arbre qui fait chuter Adam et qui ici apporte la vie. Le Christ a dit, bah, moi, je vais reprendre ce qui a fait chuter Adam et je vais le transformer en instrument de salut. Alors là, c'est Jean Chrysostome qui dit ça, enfin, c'est Thomas d'Aquin qui relaye ça, et c'est pour sanctifier l'air, parce qu'en fait, le sang du Christ a coulé par terre, donc le sang a sanctifié la terre entière. Le démon avait pris le contrôle du monde parce que ça avait échappé aux mains d'Adam qui avait. Son autorité sur la terre, qui avait laissé son autorité au diable, et le sang du Christ a repris le contrôle sur le monde. C'est-à-dire que les baptisés que nous sommes, on a comme un règne avec le Christ. Voilà, on a quelque chose, on partage avec le Christ quelque chose d'un contrôle sur la nature qui n'est pas, qui n'a pas l'air apparent, mais qui l'est beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que notre prière va faire agir Dieu avec puissance, y compris sur des choses impossibles. Voilà, il y a quelqu'un qui va trouver du travail, qui va guérir, qui était en dépression et qui va surmonter sa dépression, voilà. Et plus on a la foi, forcément, plus on va sanctifier ce qui nous entoure. Et en tout cas, l'arbre de la vie a sanctifié l'air. La croix élevée, il y a un lien avec la préparation de notre ascension au ciel. Voilà, le Christ, avec sa croix qui est tendue vers le ciel et qui est montée ensuite au ciel, il nous montre, c'est comme une flèche en fait, la croix. Et donc quand on contemple la croix. Et quand dans notre mission, on fait un lien entre une difficulté qu'on rencontre et cette croix du Christ, eh ben on peut penser au fait qu'on montera au ciel et qu'il y a comme une flèche, une direction qu'on suit. Il y a forcément donc les quatre sens opposés. On peut dire, bah, c'est le salut de tout le genre humain, le peuple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça, c'est Grégoire de Nyssa qui dit ça. On peut dire aussi le Christ est maître de la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. En fait, dans la Bible, on trouve ça quand Paul il parle de ça, ou quand dans les livres de l'Ancien Testament où on parle de vous connaîtrez la largeur, la hauteur, la profondeur. Ça veut dire en fait tous les sens cachés, le sens spirituel, le sens matériel. Je pense à Saint Hildegarde par exemple qui connaissait tous les secrets de la nature. On peut dire qu'elle connaissait la largeur. Je ne sais pas quoi correspond chaque dimension, mais plus on devient spirituel, plus on voit les choses de manière multiple, avec du recul, on est capable d'interpréter le passé, d'interpréter le présent et de connaître des choses sur l'avenir. Non pas pour nourrir la curiosité malsaine, mais plutôt parce que ça va nous guider, ça va nous aider à guider les autres et à éviter de nous perdre en chemin, parce qu'on aura déjà un petit peu, c'est comme si on avait vu un peu l'itinéraire, et plutôt que de se focaliser sur les panneaux, et ben on filait quoi, et on se concentrait sur notre mission. Voilà, c'est ça. Et puis Saint Augustin, pour conclure cette partie-là, ce genre de mort réalisait diverses figures. Il y a une comparaison entre la croix et l'arche qui sauve les hommes, donc Noé, le bâton de Moïse qui libère et qui enlève l'amertume du péché et fait jaillir la source de vie. Donc la croix, c'est finalement il y a un mystère insondable dans la croix et il y a une mystique qui disait, faut que je retrouve, mais qui disait, non, c'est pas une mystique, c'est quelqu'un qui avait reçu des paroles de, ça s'appelle Lettre de l'Enfer. C'est un truc qui est assez déprimant à lire, où c'est un damné qui est écrit à quelqu'un et qui explique comment ça se passe en enfer et comment cette fille-là s'est tiédie petit à petit dans sa vie et elle a atterri en enfer. Et elle explique que nous, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, parce qu'à chaque fois qu'on regarde un Christ en croix, on reçoit la grâce sans s'en rendre compte. S'il est baptisé, réaliser ça, il regarderait la croix plus souvent, parce qu'il dirait, mais je sais que je vais manger de la grâce, quoi. Hein? Et c'est comme se signer avec de l'eau bénite, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. C'est comme à chaque fois qu'on dit pardon ou à chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Bonsoir. Et donc, du coup, je le fais, j'ai la foi et je vais avancer dans ma vie spirituelle. Bah, la croix, voilà, je vois un homme qui était Dieu et qui est complètement donné et qui rachète l'humanité et qui nous montre une flèche vers le ciel. Voilà, toutes ces petites méditations-là, finalement, ça peut être des moyens un peu de dire, allez Jésus, je te fais confiance, même si c'est dur, quoi, même si la croix, c'est pas mon truc. Toujours dans cette première partie sur la croix, c'est des propos de Joseph Ratzinger, donc avant qu'il soit pape, dans un livre qui s'appelle La mort et l'au-delà. Voilà ce qu'il dit, j'ai trouvé que la citation était bluffante. Il parle du monde d'aujourd'hui. Il dit, les efforts faits par la médecine, la psychologie et la pédagogie pour construire une nouvelle société d'où la souffrance serait abolie ont pris de gigantesques proportions. Voilà, la société fait tout pour bannir la souffrance. Certes, par tous ces moyens, la souffrance peut et doit être endiguée. Mais la volonté de l'abolir complètement équivaudrait à un bannissement, à un refus de l'amour, et donc à un recul de l'homme lui-même, et ne peuvent aboutir qu'à une mort et à une vie sans valeur. Une vie où on ne souffre pas, c'est une vie sans valeur. L'homme qui se soustrait à la souffrance se refuse à la vie. Fuir la souffrance, c'est fuir la vie. La crise du monde occidental provient en tout premier lieu d'une éducation et d'une philosophie qui tendent à sauver l'homme sans la croix, contre la croix et contre la vérité. Parce que quand on contemple la croix, on contemple le juste qui a donné sa vie pour le monde. Les philosophes, quand ils contemplent Socrate qui a livré pour la vérité parce qu'il préférait défendre la vérité, et ben cet homme-là, il montre la vérité à la philosophie. Et on en trouve plein des gens qui sont chrétiens ou non et qui défendent quelque chose et qui, par leur martyre, en quelque sorte, leur don d'eux-mêmes, où ils meurent peut-être épuisés à force d'avoir servi les autres, ils montrent la vérité. Donc, je dirais que ça éclaire beaucoup de sujets et beaucoup de difficultés qu'on peut rencontrer avec, dans les dialogues avec d'autres personnes sur certains sujets. Je pense notamment à l'euthanasie, je pense à la péridurale, par exemple. Beaucoup de gens, pour eux, c'est une évidence absolue que oui, il faut surtout pas souffrir quand on est une femme. Et le chrétien, il va pas dire il faut une péridurale ou il faut pas de péridurale. Il va dire bah il y a la croix. Et une femme peut choisir aussi de dire soit je me sens pas de souffrir une souffrance voilà très forte, parce que bah, on peut choisir aussi d'atténuer, soit je vais saisir ce moment pour m'unir au Christ d'une manière particulière. Et certaines choisissent ce chemin-là. Et moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de ne pas bannir d'office, parce que il ne faut pas souffrir, quoi. C'est des choses, mais c'est des sujets difficiles, parce que comme bannir la souffrance est quelque chose d'évident pour beaucoup de nos contemporains, finalement, le dialogue avec eux sur des sujets qui découlent de ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut repérer ce nœud, et au lieu de parler de ces sujets-là un peu en allant la fleur au fusil et de se prendre un mur, peut-être de réfléchir sur la souffrance en amont de ça, finalement. Hein, parce que sachant que nous, on réfléchit, on n'est pas à dire il faut faire comme ci ou comme ça, parce que dans la vie, certains sont faits pour faire des grands jeûnes et d'autres non. Enfin, on a tous un petit peu nos propres manières de nous donner. Mais affronter la souffrance, c'est quelque chose qui a une fécondité particulière. Et je dirais que moi, je suis un lecteur un petit peu de livres comme. Enfin, de mystiques comme Anne-Catherine Emmerich qui a été béatifiée ou d'autres qui ont vu des passages des évangiles. Et ces gens-là témoignent du fait que Jésus a accepté la souffrance des dents quand il était bébé. Parce qu'il a voulu, par sa souffrance offerte, racheter tous les enfants. Parce que la souffrance des enfants, c'est une concession permise par Dieu que des innocents souffrent. Et ça nous épargne bien des fléaux. Et également les adultes, quand ils s'unissent à la souffrance de leurs enfants. Voilà. Moi, j'ai remarqué que prendre un enfant dans ses bras quand il souffre, souvent, ça le console des trois quarts de sa souffrance, en fait, sans même donner des médicaments ou autre. Alors, on peut donner des médicaments, mais la plupart du temps, ça suffit. Même de se lever deux fois dans la nuit, le prendre dans les bras en disant « Je m'unis à ta souffrance et je vais la porter avec toi », quoi. Ça a quelque chose de très fort et qu'on ne connaît pas assez, à mon avis. Je reviens sur l'euthanasie. Un chrétien devrait dire une personne âgée a besoin qu'on l'aide dans sa souffrance, pas qu'on dise bah, je vais céder à un cri de désespoir. Quelqu'un qui tombe a besoin qu'on le relève. Quelqu'un qui pleure a besoin qu'on pleure avec lui. Voilà. Après, pour ou contre telle ou telle technique ou telle loi, on peut en parler, mais avant tout, il faut parler de la souffrance et de la condition humaine qui est aussi de souffrir et du fait que en ouvrant notre cœur pour intégrer un petit peu de la souffrance de l'autre. On porte le monde aussi, quoi. Et notre mission, c'est aussi ça, c'est faire corps avec la souffrance.